Être homosexuel et révolutionnaire, en 71, ça devenait possible. On repensait tous les cadres, tout devenait possible. Ça n'a pas duré longtemps, une flamme de gaz vite étouffée, mais l'espace de quelques mois, c'était tellement possible. Il n'y avait plus qu'à vivre la libération des corps, elle était là, et c'était délicieux. Pendant quelques mois, c'était tellement délicieux. Avant le trou, le délitement, tes amis qui meurent les uns après les autres. Et puis bien après, l'impression d'une zone de silence dans ta propre histoire. Alors tu t'y replonges, tête la première, et on te raconte. C'est l'histoire d'une tentative de destruction du modèle dominant. L'histoire d'une tentative révolutionnaire qui explose en plein vol. Mais c'est aussi l'histoire des amours, des amitiés des corps en lutte. L'histoire des coins crasseux, celle des parkings et des urinoirs de fac, celle des chambres des copines. Une histoire qui s'écrit la nuit infinie et moite des homosexuels.
Le 10 mars 1971, Ménie Grégoire anime une émission intitulée « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Retransmise en direct, elle compte de nombreux experts de la question brûlante dont on se propose de débattre. Contre les propos qui y seront tenus, des militants, militantes infiltrés dans la salle interrompent l'émission et envahissent le plateau. Il s'agira de la première action directe du Front homosexuel d'action révolutionnaire.
Voilà, ça c'est le point de départ. C'est le point de départ de l'homosexualité, ce douloureux problème du collectif, le fléau social. Quelle est cette histoire finalement de ce 10 mars 1971 ? Comment on s'intéresse à cette histoire ?
À l'origine, ce projet, il est né de la reconstitution de l'émission à laquelle on est arrivé par une commande d'une association lyonnaise qui s'appelle Mémoire Minoritaire et qui travaille sur la récupération de l'histoire des minorités sexuelles. Et donc du coup le transcript de cette émission de Ménie Grégoire, qui était l'émission la plus écoutée sur RTL en France à l'époque, existait, a été récupéré. À partir de ça, on remontait l'émission telle qu'elle avec le texte d'origine. Cette version là elle s'est donnée trois fois à Saint-Étienne et à Lyon, et à partir de là est née l'idée de travailler un petit peu plus le groupe qui s'est formé après cette émission, puisqu'elle est interrompue par des militants homosexuels qui ensuite constitue dans les jours suivants le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui est le premier groupe militant et révolutionnaire homosexuel en France, voilà, en 1971. Et l'idée, c'était de commencer à travailler plus précisément quelle a été la trajectoire de ce groupe, qu'est-ce que c'est que cette étincelle dans l'histoire des luttes, qui n'est pas une histoire qui est particulièrement transmise dans les groupes militants queer aujourd'hui, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est né en fait à ce moment-là et quelle a été la vie amoureuse, amicale, politique de ce groupe-là pendant les 2 ans en fait très courts où il a existé.
Alors, une introduction d'émission assez particulière. On ne s'est pas présenté. Alors, vous êtes du collectif Fléau Social. Qui êtes-vous ? Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les autres membres de ce collectif-là ?
Alors, il y en a beaucoup. Moi, c'est Nana. Donc, je suis dans le collectif Fléau Social et je suis avec Coco et Marie.
On a compté, on est actuellement là dans cette étape de travail, 8 au plateau, 3 regards extérieurs, une création lumière, une création son. Donc, ça fait bien 13 personnes qui gravitent là autour du projet en ce moment, mais il y a eu plein de gens qui sont passés dans les autres étapes de travail, qui ont gravité autour du collectif, donc ça brasse pas mal de gens quand même.
Le collectif en fait est véritablement né. Fléau Social, c'est un nom qu'on tire en fait directement de la création du spectacle, puisque c'était ni plus ni moins que le statut de l'homosexualité dans la loi française en 1971 encore. L'homosexualité était pénalisée et elle était mise au même titre que l'alcoolisme, la tuberculose, comme un fléau à éradiquer. Donc Fléau Social pour l'instant existe autour de la création de ce spectacle, quelques activités parallèles, annexes, des collaborations. On attendra les années prochaines pour voir où est-ce que tout ça nous mène. Mais le collectif au sens large dont parlait Marie, peut-être une vingtaine de personnes a gravité dans ces 3 ans de création, puisque le spectacle a mis à peu près 3 ans à passer de la forme émission à différentes formes de spectacle jusqu'à la première du vrai spectacle, là, le 25 au Verso.
Bon, c'est un acte militant, j'imagine. C'est un acte militant sur des convictions que vous avez tous. Comment on passe de cet événement jusqu'au plateau? Comment vous êtes retrouvé au sein du collectif sur cette idée-là?
Ben, je pense que pour aussi pour comprendre ce geste militant, en fait, on a dû quand même faire un gros travail autour des archives pour mieux comprendre qui ils étaient, quand ça se passait, comment, etc. Et en fait, on est quand même, je crois qu'on est tombé sur des pépites un peu que on avait juste envie de, où il nous semblait important de les réactiver, de les faire entendre, de les communiquer, de les transmettre. Parce que c'était en fait ce qui était dit était important dans ces archives-là et passer par la forme théâtrale, bah, évidemment que ça permet de les réactualiser, de les transmettre.
Historiquement, cet événement-là, comment il est archivé?
Cet événement-là, celui de l'émission L'homosexualité, ce douloureux problème de Ménie Grégoire, il est archivé d'une manière très étrange parce qu'il a été métabolisé en fait par Ménie Grégoire et par la société française comme un moment de propagande et comme un acte pas tellement inaugural. Et en fait, ça a aussi trait au fait qu'il y a eu une absence de passation, une absence de transmission en fait de l'histoire militante spécifique de ce mouvement dans les générations suivantes. C'est un peu aussi un marqueur de l'histoire des luttes queer. C'est qu'il y a ce très très grand trou, ce grand vide qui sont les années sida et qui est un peu cette nécrologie qui nous surplombe toujours et qui est comme si c'était le point de départ, on va dire, de nos identités, de nos luttes et que tout était passé à ce moment-là. Et en fait, ce moment-là, ça a été un moment de perte d'énormément d'informations. Donc en fait, l'émission en tant que telle, pour en faire un événement signifiant dans nos histoires, il fallait la ressortir, la redonner telle qu'elle, pour ensuite contextualiser qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui a été mené comme action directe par ce mouvement, qui en fait sont des actions qui résonnent énormément avec les problématiques qui habitent aujourd'hui les agendas politiques des collectifs queer qui est hyper important de se réapproprier en fait.
Puis en fait, on en fait un moment un peu pivot pour le phare, etc. Mais ça parle aussi, moi je trouve que ça parle aussi beaucoup comment fonctionnent les groupes ou la constitution des groupes ou des collectifs militants politiques où en fait, même aujourd'hui, on fait des actions avec des personnes et puis après coup, on revient sur ce qui s'est passé et on se constitue en groupe. Mais c'est pas la temporalité des groupes politiques militants, c'est pas forcément on constitue un groupe et ensuite on fait des actions. C'est souvent que on fait une action qui a été très forte, qui vient constituer le groupe. Voilà.
Alors, le phare, c'est le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et pour contextualiser, expliquer, hein, lors de cette émission de Ménie Grégoire, c'était à la salle Pleyel, me semble-t-il, le thème, c'était l'homosexualité traitée comme une maladie que l'on pouvait, pourquoi pas, essayer de guérir. En schématisant, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer un peu mieux les propos qui étaient donnés. Et puis, il y a une intervention de membres du public qui font partie du phare, qui sont venus, si ce n'est interrompre, au moins revendiquer et avoir le droit de porter leur parole aussi face aux propos. Quelle est l'histoire, si on doit parler de ce jour-là, de ce moment-là, quel est-il factuellement?
J'ai presque envie de dire pour venir voir le spectacle.
Je pense qu'il faut dire quand même que c'était assez exceptionnel à ce moment-là, déjà qu'il y ait une émission avec une telle audience qui fasse sujet de l'homosexualité. Et il nous semble quand même qu'il y avait quand même une bonne intention derrière. Bon, après, dans les invités, évidemment, il y a des figures médicales, il y avait un psychanalyste, un prêtre, etc. Qui portait un discours en fait très désagréable quand on est concerné et très très médicalisant, voilà, c'est un accident, etc.
Non, mais effectivement, il y a un élément qui est quand même important que vient de mentionner Nana, c'est que l'émission de Ménie Grégoire, c'est une émission de psychanalyse. C'est une émission qui est très émancipatrice dans les années 70, qui parle beaucoup aux femmes au foyer, qui parle beaucoup de la condition féminine, de la sexualité, toujours d'un point de vue de la psychanalyse. Et en fait, c'est une émission qui est extrêmement emblématique du point de vue qui était porté sur l'homosexualité à l'époque, c'est-à-dire un point de vue surplombant, pathologisant, très compatissant, avec tout ce que ça a de redoutable comme positionnement, puisque c'est une émission qui est à la fois extrêmement douce et extrêmement violente, dans tout l'appareil médiatique. Et puis bah, y a aussi ce dispositif où en fait les personnes qui ont la parole et qui ont la tribune sont les personnes qui ne sont pas concernées, même si Méni Grégoire les définit comme des gens qui connaissent bien la question pour des tas de raisons diverses, effectivement très diverses. Il y a même de chanteurs de variété hein, sur le plateau. À l'inverse, une des dernières phrases qu'on entend crier depuis la salle et qui interrompt l'émission de la part des militants, c'est « ne parlez plus de notre souffrance ». Et donc du coup c'est pour rompre un petit peu ce monopole de la parole pathologisante et sur la souffrance, sur l'homosexualité, et pour se réapproprier la parole que surgit cette action là et en fait on a peu de traces même dans les archives du Phare pour savoir si cette action était véritable, si cette interruption était véritablement délibérée et préparée, ou si elle a surgi comme une espèce de réflexe à une époque où c'était devenu impossible, vu la violence physique, médicale, politique appliquée sur l'homosexualité, de ne plus parler. Et en fait, c'est l'histoire du Phare, c'est-à-dire que c'est un groupe qui se constitue parce que ce n'est plus possible, et qui prend l'espace et dont la ligne directrice principale, c'est « nous devons être visibles, ça ne peut plus se produire comme ça, nous ne nous normaliserons pas, et nous ne nous tairons plus, arrêtons de raser les murs ». C'est un programme politique. Est-ce que c'est un programme d'action et est-ce que c'est un programme de structuration de collectif? C'est une autre question et c'est un petit peu ce sur quoi, avec le recul, on voit le Phare petit à petit se casser les dents. En fait.
Alors le Phare, effectivement, c'est une entité qui a existé sur une courte période. Dans votre volonté de représenter ce moment-là, cette scène-là, dans l'homosexualité, ce douloureux problème, cette pièce de théâtre, qu'est-ce que l'on voit? Est-ce que c'est la reconstitution totale? Est-ce qu'il y a un aval, un amont? Comment vous avez traité finalement ce sujet-là?
On s'inspire des archives de personnes qui ont aussi réellement existé dans ce mouvement. Et après, évidemment que c'est pas du théâtre documentaire calqué. Enfin, on en a parlé, on en parle. En fait, il n'y a pas eu de transmission, de passation. On est obligé de recréer de combler les vides et les trous qui manquent quand bien même on a ces archives. Donc il y a ces matériaux concrets et nous aussi derrière, en fait, il y a tout un travail de création où on essaye aussi de rendre compte de ce que ça a été en s'appuyant sur ces matériaux sans pour autant dénaturer. Tout en essayant de le rendre quand même compréhensible ou transmissible actuellement, enfin de manière contemporaine.
Et je pense aussi qu'il y a un impératif qui est un impératif politique pour nous depuis notre endroit aujourd'hui contemporain, mais aussi un impératif d'organisation collective de la création, puisqu'on est un collectif horizontal, tout le monde est passé par l'écriture, la mise en scène, le jeu à un moment, et c'est un processus long comme ça de retravail perpétuel. On ne peut pas et on ne veut pas parler des histoires minorisées en faisant ressortir les figures héroïques. Et en plus, ce n'est pas un impératif viable à l'échelle d'une distribution non plus de travailler un spectacle qui ne repose pas sur les 8 interprètes qui sont au plateau. Et en fait, cette dynamique d'écriture collective et d'inspirer des faits réels, c'est-à-dire de déformer les figures et de plus du tout représenter ces figures historiques, ça permet de créer une infinité de nuances et de représenter beaucoup plus, un panel beaucoup plus grand, disons, de positionnement, de vision de la révolution, de projection dans l'action, et d'essayer de donner un petit peu plus de consistance en fait à ce que ça a été que ce moment où tout le monde cohabitait, s'aimait, faisait la fête et faisait des actions avec une puissance théorique qui est quand même assez hallucinante et une vision du monde extrêmement lucide, mais en fait plein de visions polyphoniques qui sont tout le temps en contradiction.
Et du coup, en fait, ce travail de replonger dans les archives et de s'inspirer de ces figures a tissé en fait autour de l'émission toute une trajectoire de personnages différents qui s'entremêlent et qui a, voilà, c'est pas que l'émission, le spectacle, c'est vraiment plein de vies qui s'entrecroisent autour de la constitution de ce groupe à ce moment-là de l'histoire qui est le Phare. Et jusqu'à sa dissolution, en fait.
Alors, votre travail avec le collectif Le Fléau Social, et ces idées qui viennent, ça reste pour venir à une création artistique ou une création militante, ou les deux? Comment on fait la part entre l'artistique, la performance aussi. Et la part militante, comment on traduit ça dans le spectacle et comment on le vend aux salles qui vont vous faire jouer et comment on défend ce spectacle-là?
Moi, pour ce qui est de la création et de la part artistique et ou militante du spectacle, moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, on crée avec ce qu'on est, de toute façon. Pas de là à dire c'est un spectacle militant ou c'est du théâtre militant, il ne s'agit pas de ça, mais de juste chacune dans nos quotidiennetés, on a des engagements dans nos manières d'exister, de faire, de travailler, d'être solidaire. Et je crois que juste ça se retrouve donc dans nos modes de travail et d'une manière ou d'une autre dans la création qui en émane. Mais c'est plus comme une forme d'infusion que de distinction pour moi.
Oui, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, je pense que c'est plus qu'un spectacle militant, c'est un spectacle sur le militantisme fait par des personnes militantes et infusé de militantisme. Après, il y a des questions quand même très concrètes qui se posent à nous de par nos regards. Et évidemment que traiter le phare, si on n'est pas militant, militante, ou si on n'est pas concerné dans nos identités et nos luttes aujourd'hui, ça ne se raconte pas du tout de la même façon, parce qu'il y a un fossé aussi entre les termes qui sont employés à l'époque, les concepts qui sont manipulés, la façon dont se définissent les identités et ce qui correspond à nous aujourd'hui. Et du point de vue de la représentation, du point de vue de l'interprétation, du point de vue de l'écriture des personnages, ça demande un investissement, un apport individuel dans l'écriture et de positionnement extrêmement particulier et situé pour essayer de dire comment est-ce qu'on représente ces figures-là qui sont partie de notre histoire, qui sont des personnages qui souvent n'existent pas sur les plateaux de théâtre. Et en même temps, comment est-ce qu'on navigue entre l'écriture de ces personnages, leur représentation, et en même temps les stéréotypes de représentation, comment est-ce qu'on fait péter ces carcans-là, comment est-ce que nous on se représente dedans, et est-ce qu'on se sent aussi les épaules d'incarner des figures qui sont à la fois très proches de nous parce que c'est notre histoire propre, et en même temps très loin de nous parce que c'était pas du tout les mêmes vécus.
Alors du coup, c'est ce côté éloignement sur aujourd'hui les questions LGBTIQ+, que l'on vise dans notre société avec tout ce que l'on lit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on constate. Est-ce qu'on, quand vous avez commencé à monter cette pièce-là, est-ce qu'on fait des parallèles avec 71-2020 Est-ce qu'on compare finalement ces deux époques?
Je crois qu'on a fait un effort très grand, très tôt dans le spectacle, pour retirer de notre spectre l'envie de porter un discours sur les concepts politiques, les stratégies de lutte, etc. de cette époque-là, parce qu'on n'a jamais trouvé que c'était un endroit intéressant, ni que c'était notre place. Mais par contre, l'endroit où bien sûr que ça dialogue, c'est que ce spectacle, c'est pas un spectacle qui rejoue le phare. C'est nous qui décidons de rejouer le phare, de réactiver et de mettre du vivant, de l'incarnation dans ces personnages pour revoir cette histoire en chair, en dynamique, et se projeter nous dans cette histoire. Donc en fait, c'est un spectacle sur nous, notre génération et nous en 2020, qui regardons ces archives manquantes, qui naviguons dans cette histoire trouée et qui décidons de la rejouer et de la porter avec nos mains. Et c'est ici qu'en fait il se tisse le lien entre 71 et nous et toutes les époques entre.
Alors ce spectacle dure 1h10. C'est un spectacle à partir de 16 ans. Pourquoi ? Pourquoi 16 ans ? Pourquoi est-ce que ça c'est une volonté de votre part? Est-ce que c'est juste une indication de la part du théâtre aussi, hein, ça peut être ça. Et est-ce que ce spectacle, dans la question bien sûr artistique et le propos, est-ce que c'est aussi entre guillemets un théâtre éducatif?
Alors le pourquoi 16 ans? Effectivement il y a quelques scènes un peu explicites dans le spectacle. Bon, je pense qu'on n'a pas voulu les enlever parce que vraiment aussi, enfin la question de la libération sexuelle pour les identités homosexuelles à l'époque, c'était vraiment quelque chose de dingue qu'on veut pas du tout effacer. Et aussi parce que c'est aussi des relations qu'on voit pas souvent au plateau, dans les spectacles, etc. Et que ça nous fait à la fois plaisir de les porter et ça nous semble important de les montrer. Je crois que c'est important pour nous, et ce dont on s'est rendu compte aussi en travaillant avec, à partir dans ces archives, c'est d'abord leur importance, l'importance d'en créer, d'en produire, et en fait de prendre conscience de notre propre historicité et du fait que, oui, nous sommes potentiellement des archives vivantes. Documenter nos modes de vie, nos relations, tout ça, c'est important, il faut le faire. Et que possiblement, en fait, c'est nous qu'on regardera plus tard. Enfin, il y a aussi une question de transmission, de passation qui est plus à cet endroit-là. Nos vies sont importantes. Enfin, ce que vous vivez est important, ce qui est vécu est important, et il faut en laisser des traces. Voilà, pour qu'elles puissent servir à d'autres, peut-être.
Et sur ce qui est de la part transmission, éducative, etc., c'est un spectacle qu'on veut pouvoir destiner à des publics très larges. La question de la transmission de ce genre de sujet, parce qu'en fait ça a beaucoup plus à voir avec le sujet qu'avec le fait que les scènes soient explicites, parce que c'est en fait un faux problème quand ça reste dans la norme. Le problème de ces sujets-là, bon, l'homosexualité, des spectacles sur l'homosexualité, ça commence à être un petit peu dans les clous des spectacles scolaires. Les questions de transidentité, par exemple, pas du tout. Donc il y a un chemin encore un petit peu long. Pour l'instant, on ne peut pas faire de scolaire pour des questions de Covid dans la région. Mais à terme, oui, l'idée de faire de la médiation et de faire du scolaire en espérant que les enseignants et enseignantes pourront s'y jeter, ce serait avec plaisir. Voilà, et peut-être quelques précisions très courtes sur la durée du spectacle qui n'est plus 1h10, mais bien 1h30 pour toujours plus de plaisir. Et sur une date supplémentaire qui vient d'être ajoutée pour essayer de contenter au maximum nos publics. Donc du coup, il y aura aussi une séance, la dernière, le 30 septembre, au Verso toujours à 20h.
Alors, un spectacle qui marche bien, hein, c'est plein pour le 25, les représentations, les 27, 28, 29. Et donc, on vient de l'apprendre en exclusivité le 30, au Théâtre Le Verso, c'est 61 rue de la Richelandière, à Saint-Étienne. Coco, Nana, Marie, merci d'être venue parler au nom du collectif Fléau Social pour l'homosexualité, ce douloureux problème. Merci.
Merci. Merci.